je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Néhémie au chapitre 4. Vous savez que nous sommes toujours dans cette série « Levons-nous et bâtissons ». Et nous avons vu plusieurs choses, ça va être redéfilé à l'écran. La prière efficace dans le premier chapitre, on voit un Néhémie qui prend à cœur une situation et qui se met à prier pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, jusqu'à obtenir au bout de 4 mois l'exaucement à la prière. Ça, c'est la prière efficace. Et on est heureux quand le Seigneur exauce nos prières. On a encore vécu plusieurs expériences dans les cours de cette semaine où nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Pour un petit bébé de 6 jours qui était malade, on a prié, le Seigneur a enlevé la méningite qui était là. On ne savait pas ce qu'il avait, les docteurs ils ont fait toutes sortes d'examens. 5 jours après, ils ont eu les résultats, mais en attendant, 1 jour après, il était guéri. Donc voilà, c'est intéressant quand on s'appuie sur le Seigneur. Là, chapitre 2, on a vu cette réalité que Dieu est celui qui dirige nos vies. Quand on prie, quand on présente nos projets devant le Seigneur, il est celui qui conduit les temps et les circonstances, et qui nous apprend à discerner quelle est sa volonté. C'est tellement important de connaître la volonté de Dieu. Dans le chapitre 3, la semaine dernière, vous vous souvenez ce dont il était question, cette arme de construction massive, j'aime cette expression, parce que c'est la réalité, l'unité, travailler dans l'unité. Vous pouvez avoir tous les talents du monde, si vous travaillez tout seul dans votre coin, vous irez moins loin que quelqu'un qui apprend à travailler en équipe avec son frère, avec sa sœur. Même s'il n'a pas de grands talents, mais qui est là dans l'amour fraternel, eh bien, il va aller loin parce que c'est un groupe, une famille, un ensemble de personnes liées par le Saint-Esprit qui avancent. Aujourd'hui et la semaine prochaine, on va voir cette réalité que quand il y a l'unité, il y a aussi des ennemis qui se lèvent. Quand on se lève pour dire « levons-nous et construisons », il y a un ennemi qui se lève et qui dit « levons-nous et détruisons ». Vous avez déjà remarqué ça ? Quand on fait des progrès avec le Seigneur, alors systématiquement on a une épreuve derrière. Et quand on lit Néhémie, quand on lit chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, 6 même, on se rend compte que c'est une réalité. À chaque fois qu'il y a un petit progrès, il y a aussi un ennemi qui se lève. Au début, Néhémie voit sa prière exaucée, il va à Jérusalem. Et là, tout de suite, ça commence à gronder. Il y a des gens qui sont pas contents que quelqu'un vienne chercher le bien pour le peuple d'Israël. Après, il visite de nuit la ville, les ruines de Jérusalem, et puis il communique sa vision à toutes ces personnes, et tout de suite après, Sambala et la clique, ils sont là en disant, ils se moquent d'eux, ils utilisent toutes sortes de stratégies pour pouvoir dénoncer ce travail qui se fait. Et là, on va arriver après le chapitre 3, où tout le monde se met à l'œuvre, se met à la tâche. Néhémie chapitre 4, donc, on arrive à ce moment-là où justement c'est la réaction encore une fois de l'ennemi. Et si vous lisez les chapitres qui suivent, vous verrez que c'est toujours cette alternance. C'est exactement ce que nous vivons, frères et sœurs. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que quand on fait des progrès avec le Seigneur, alors on va sûrement connaître un temps difficile par derrière. Parce que quand on se lève pour bâtir, il y a un ennemi qui n'est pas content. On le dérange. On dérange ces stratégies de faire la destruction et le mal pour les personnes qui nous entourent ou pour nos propres vies. Un chrétien qui reste dans son coin, qui est dans le repos spirituel, mais vous savez, le canapé dans lequel on veut plus se lever, spirituel, ça c'est pas le bon repos. Hein. Mais celui-là, il dérange pas beaucoup l'ennemi et il va le laisser tranquille. Mais quand on se lève pour bâtir dans l'œuvre de Dieu, alors il se lève aussi cet ennemi. Et regardez, donc on va lire ce chapitre 4. J'aurai pas le temps ce matin de voir tout. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, de types d'adversité que nous pouvons rencontrer, qui nous montrent ce que l'ennemi est capable de faire dans les vies des uns et des autres. Mais dans Néhémie chapitre 4, nous voyons déjà quelques enseignements. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Vous savez que Jésus a dit, en parlant du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Là, on voit la différence de volonté entre l'ennemi de nos âmes et puis le Seigneur qui, lui, veut nous accorder la vie. Et vous voyez que c'est la même irritation qui est là. L'ennemi fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija l'Ammonite était à côté de lui. Et il dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comment nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage, sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Mais regardez la réaction. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Et regardez la suite. La moitié de la muraille est faite. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi qui revient à la charge. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et la réaction du peuple de Dieu, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ils ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Et je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Vous voyez que déjà, nous, dans ce passage, il y a toutes sortes de leçons que nous pouvons en tirer, mais nous voyons en tout cas une chose qui demeure dans tous ces chapitres et même jusqu'à la fin, nous voyons un Néhémie, malgré l'adversité qui commence à grandir et l'ennemi qui commence à gronder, il est un Néhémie qui tient bon, un Néhémie qui est solide, qui reste fermement attaché à Dieu, qui ne se laisse pas avoir par les stratégies. La Bible nous dit que le diable, il emploie des stratégies, des ruses, pour pouvoir nous faire tomber, pour pouvoir nous mettre plus bas que terre et nous faire du mal. Il y a 2 courants de pensée dans notre monde aujourd'hui. Il y a soit ce courant de pensée comme quoi le diable n'existe pas. On veut bien croire à un Dieu qui est très lointain, qui s'occupe pas de nous, mais on veut pas croire à un diable. Ça, c'est un danger. Parce que quand on n'a pas conscience qu'il y a un ennemi qui nous veut du mal, l'ennemi, il peut nous faire du mal sans qu'on s'en rende compte. Mais il y a aussi ceux qui voient l'ennemi partout. Et qui accusent le diable de tous les maux qui leur arrivent. Dès qu'ils se mettent en colère, « Ah, c'est le diable qui me pousse à la colère !» Mais non, la Bible a dit « Renoncez à la colère !» La Bible a dit « Faites mourir ce qui dans vos corps est terrestre. Ce qui vient de votre chair, faites-le mourir. » Ça veut dire « Renoncez-y !» Il y a des traits de caractère dans la parole de Dieu qui sont soulignés pour nous dire qu'il faut faire attention de ne pas les cultiver, mais au contraire de les faire mourir. Et combien c'est bon de se réaliser que le Seigneur est celui qui nous donne cette capacité. Mais vous voyez, un ennemi qui est là et qui emploie des stratégies, des types d'adversités différentes, qui des fois il est dans l'attaque grossière, et puis des fois il est dans la subtilité, où on a du mal à discerner On verra plus la semaine prochaine tout ce qui est question de compromis. Des fois, on accepte certaines choses de Dieu, mais on accepte aussi un petit mélange avec le monde. Et on fait un petit notre mélange comme ça, et puis on pense que ça, c'est la foi que Dieu approuve. Mais Dieu nous invite à être tout entier à lui. Tu seras entièrement à l'Éternel. Et là, nous voyons que Sambala, avec cette colère, avec cette irritation, et puis les amis qui l'entourent, ils sont dans une unité, mais une unité pour détruire. Et leurs armes qu'ils utilisent, la première que nous voyons, que nous soulignons, c'est la moquerie et le mépris. Qui n'a jamais été moqué? Qui n'a jamais été méprisé? Ça vous est jamais arrivé? Il y a quelqu'un qui peut dire ça? Tant mieux, hein? Moi, je vous le souhaite. Mais croyez-moi, plus vous vous approcherez du Seigneur, plus ce sont des choses qui vont vous arriver. Mais la question, c'est pas de savoir si on va se moquer de vous ou si on va vous mépriser. La question, c'est de savoir comment est-ce que vous allez réagir par rapport à ça. Je connais des personnes parce que on s'est moqué d'eux une fois et qui étaient fragiles dans la foi. Ils ont abandonné tout. Ils ont dit, si c'est ça être chrétien, mais je laisse tomber. Mais est-ce qu'on n'a pas été prévenu? Je veux dire, s'il y avait aucun texte dans la Bible qui parlait de ça, bon, on pourrait se poser des questions, mais une des premières prédications du Seigneur, il dit « Heureux lorsqu'on se moquera de vous, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Qu'est-ce qu'il dit après ?« Votre récompense sera grande dans les cieux. » Voilà pourquoi moi, quand les gens se moquent de moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en plus timide, alors dès qu'on se moquait de moi, c'était la catastrophe, je perdais tous mes moyens, mais aujourd'hui, je suis presque ravi. Je dis, mais allez-y, moquez-vous, vous êtes en train de gonfler la récompense dans le ciel, alors allez-y. Hein. Bien sûr, quand il est question qu'on se moque à cause de la foi du Seigneur, quand on se moque parce qu'on a péché et qu'on en a fait le mal, on va pas avoir de récompense. Hein. Faut pas mélanger ce que dit la parole de Dieu, attention. Mais quand c'est parce qu'on tient bon. Mais je me souviens parce que j'étais quelqu'un qui allait à l'église tous les dimanches, à l'école, les copains se moquaient et disaient « Ah, toi tu vas à l'église, ah c'est nul l'église » et tout ce que les ados et les jeunes peuvent dire. Et c'est vrai que quand moi j'étais pas affermi, quand je faisais ça parce que mes parents me demandaient de le faire, ça me blessait tout ce qu'ils disaient. Mais le jour où j'ai compris que la foi c'est un engagement envers Dieu, c'est un amour, c'est une présence de Dieu continuelle, tout ce qu'ils pouvaient me dire, ça me passait au-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez cette pub à un moment donné qui passait, il montrait un évier qui était trempé dans la boue et on le sortait avec des chaînes de la boue et la matière était de telle sorte qu'il y a tout qui glissait dessus. Et voilà, moi je me suis dit, mais voilà, moi c'est ça que je veux vivre. Quand on se moque de moi, quand on traîne mon nom dans la boue, je m'en fiche parce que ça glisse, parce que le Seigneur est mon partage. Le Seigneur est celui qui me dit, lui, ce qu'il pense de moi, et c'est ça qui est le plus important. Face à la moquerie, comment réagissons-nous? Vous avez vu les paroles qu'ils emploient? Ils sont en train de se moquer de toutes sortes d'aspects dans leur vie. Ils se moquent de leur force. Et l'ennemi, il aime bien se moquer de notre force en nous montrant combien on est faible. Vous avez déjà entendu ces pensées à l'intérieur de vous qui vous disent combien tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez fort pour résister à tel ou tel péché. Et est-ce que c'est vrai? Ben oui. Si on est honnête, on sait que c'est vrai. Mais on va voir comment il faut réagir par contre. Faut pas en rester là. Regardez les paroles. À quoi travaillent ces juifs impuissants? L'ennemi aime souligner notre impuissance. L'ennemi aime nous montrer qu'on n'est pas assez nombreux. L'ennemi aime nous montrer qu'on est trop faible, qu'on n'a pas assez de caractère, qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Il aime nous montrer aussi que tout ce qu'on fait pour Dieu, ça sert soi-disant à rien. Vous voyez, il leur dit, est-ce qu'ils vont sacrifier? C'est comme s'il leur disait, que vous faites pour votre Dieu, ça ne sert à rien, il vous entend pas. Arrêtez vos sacrifices là. Le temple, c'est bien que vous l'ayez, mais ça sert à rien. Dieu va pas vous aider. Et on entend souvent dans notre cœur, malheureusement, l'ennemi qui est là, qui veut murmurer. Moi, j'appelle ça le venin du serpent, qui veut nous murmurer ses paroles pour nous dire que la foi, ça sert à rien. Lire la Bible, ça sert à rien. Prier, ça sert à rien. Pourquoi tu t'entêtes à faire ça? Pourquoi tu t'entêtes à venir à l'église? Mais laissez-moi vous dire, quand vous entendez ce genre de pensées, que c'est pas Dieu qui les inspire. Que c'est l'ennemi de vos âmes qui veut vous arrêter. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et que si vous continuez de lire, si vous êtes fidèle, si vous êtes droit, si vous faites ce que la parole de Dieu dit, alors vous allez voir la victoire. Et Néhémie, il a réagi de cette manière-là. Il a regardé au Seigneur plutôt qu'à écouter ces paroles de l'ennemi. Vont-ils achever ? On entend des fois cette parole du diable qui nous dit « tu n'arriveras jamais ». On entend des fois même, il se sert des parents qui ont dit ça à leurs enfants, il se sert de certaines personnes autour de nous qui sont là pour nous décourager. Je lisais cette semaine un livre qui m'a interpellé encore une fois. Un homme qui était à l'époque, il était tout jeune, il raconte cette expérience, qu'il était à l'école biblique. Le problème, c'est que c'était pas pour lui l'école biblique. Lui, il avait grandi dans l'église, son père, son grand-père était pasteur, et depuis tout petit, il allait dans le bureau de son père, de son grand-père, et avec eux, il étudiait la parole, il était collé à eux, donc il a appris tellement et tellement auprès d'eux, mais de manière pratique. Et à l'école biblique, c'était vraiment le bourrage de crâne, si vous voulez. Bon, c'était le bon bourrage de crâne, hein, c'est la théologie, mais pour lui, ça lui correspondait pas. Et un jour, il a dit, ça suffit, il faut que... Je peux pas continuer comme ça, le Seigneur m'appelle à aller faire un travail d'évangéliste, il faut que j'aille prêcher autour de moi, amener des personnes à Jésus, et là j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors il a rendez-vous avec le directeur de l'Institut biblique, et puis le directeur de l'Institut biblique, il apprend un petit peu ses motivations, et il lui dit, il essaie de le persuader, non mais restez, ça vaut la peine de prendre ce temps. Et puis il voit que le jeune homme il est décidé, alors il lui dit une parole, il lui dit, jeune homme, si tu continues comme ça, tu ne seras pas béni de la part de Dieu. Tu ne pourras pas avoir un ministère qui ait du succès. Tu seras un pasteur dans une petite église de campagne, mais c'est tout. Tu pourras pas aller plus loin. Et voilà les paroles qu'il lui laisse. Alors il lui serre la main et puis il avale sa salive parce qu'il faut la encaisser. Mais il a une conviction que le Seigneur l'appelle à autre chose. Et cet homme, donc, il a continué selon ce que le Seigneur avait mis sur son cœur. Et aujourd'hui, c'est le pasteur de l'église Assemblée de Dieu des États-Unis la plus grande. C'est-à-dire que la parole, entre guillemets, de malédiction que la personne a dit, s'est pas produite parce que il a mis sa confiance dans le Seigneur. Et il a pas entendu les paroles de moquerie et de mépris qui étaient dites par cette personne. Pourtant, c'était un homme de Dieu, mais on peut tous se tromper à un moment donné. Mais lui, il a dit, moi, la leçon que j'en ai tirée, c'est que je veux jamais décourager quelqu'un qui me partage une vision. Je ne vais pas lui dire, même si je ne suis pas d'accord, je ne vais pas lui dire les paroles négatives. Je ne vais rien dire en tout cas, mais je préfère soit l'encourager, soit être neutre, mais jamais décourager quelqu'un. Et ça, mes amis, c'est ce que nous devons faire si nous voulons être forts par rapport à la moquerie, par rapport au mépris que l'on peut vivre. Mais que nous-mêmes, nous ne soyons pas de ceux qui se moquent, parce que ça ne vient pas de Dieu. Il y avait un homme, un jeune homme, qui racontait cette histoire aussi. À 8 ans, il a perdu son grand-père. Et à 8 ans, donc, il commence à se poser des questions. C'est jeune quand même. Mais il commence à se poser des questions sur la vie. Parce qu'il voyait son grand-père tous les jours. Là, il le voit plus. Il se demande qu'est-ce qu'il y a une vie après la mort. Quel est le but de notre existence sur la terre. Et puis, surtout à partir de 15 ans, il va en seconde dans un internat. Et là, parce qu'il est un petit peu petit par rapport aux autres élèves, parce qu'il est un petit peu mat de peau, les autres commencent à le harceler, se moquer de lui, il commence à devenir le souffre-douleur dans l'internat. Et le problème, c'est que ça se passe et la journée pendant les cours, mais même la nuit, il commence à le harceler. Et ce jeune homme, donc, il grandit avec cet état d'esprit où il a l'impression que tout le monde lui en veut, il a l'impression que rien ne va, qu'il entend que des moqueries sur lui, sur sa vie. Et donc, il commence à s'enfoncer dans l'alcool, il commence à s'isoler vraiment, il a pas beaucoup d'amis, il commence à passer même son temps sur des sites de rencontres pour essayer de trouver une relation qui va l'aider dans ça, mais bon, il n'y a rien qui marche. Et il tombe vraiment dans une dépression profonde à cause de cette situation. Et vous voyez comment la moquerie peut faire du mal quand on n'a pas les clés pour en sortir. À 17 ans, un jour, il choisit de fuguer. Il dit, je peux pas rester comme ça, il faut que je m'en aille. Alors il va à la gare, il prend un train, le premier train qu'il trouve, il part dedans, et puis il voit le téléphone qui sonne parce qu'on commence à s'inquiéter, la police est même contactée, il commence à faire des recherches partout, dans le train il y a des annonces qui sont faites, et lui il va se cacher dans les toilettes, puis là dans les toilettes il commence à réfléchir un peu à ce qu'il est en train de vivre. Et puis il voit plein de tags dans les toilettes, vous avez déjà remarqué, hein, toilettes publiques souvent il y a des choses qui sont écrites, mais il y a une parole qui l'interpelle. C'est pas un verset, mais c'est une parole qui l'encourage. Ça dit ceci, plein d'amour, bonne chance, la vie est belle, bonne route et bon voyage. Et lui, ça lui fait croire que c'est possible que sa vie puisse changer. Il y a quelque chose qui peut se passer pour que sa vie change. Finalement, il décroche, il parle à son père et il lui dit « Papa, comment est-ce que je vais pouvoir tenir ? Si ma vie elle reste comme ça, je vais pas pouvoir tenir. » Et son père lui dit cette parole « Tout va dépendre de ce que tu vas faire bientôt, dans les jours à venir, et puis des personnes que tu vas rencontrer. » Je sais pas s'il était chrétien son papa, mais en tout cas, c'est ce qu'il lui a dit. Et quand il rentre, il a la pensée très forte d'appeler un de ses collègues de classe qui, lui, était pas comme les autres. Son collègue de classe, il a toujours écouté, il a toujours encouragé, il a toujours dit d'aller de l'avant. Alors il a pensé de l'appeler, il se confie à lui. Il sait qui c'est, quelqu'un de confiance. Et puis, il apprend que ce jeune homme, il est chrétien. Et ce jeune homme, il invite à venir dans un groupe de jeunes. Et donc, lui se dit, pourquoi pas, après tout, hein, j'ai rien à perdre. Il va dans ce groupe de jeunes et là, il voit des gens qui sont pas en train de se moquer de lui, des gens qui l'acceptent, des gens qui l'aiment, des gens qui sont simples, qui sont honnêtes, qui disent ce qu'ils pensent, mais qui sont là et qui sont dans cette attitude de cœur très ouverte. Et là, déjà, il est interpellé. À la fin, quelqu'un qui ne connaît pas lui dit « Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi ?» Et il se met à prier pour lui et il lui demande de bénir l'avenir de ce jeune homme. Et là, son cœur est touché et il y a une question qui vient dans son esprit, comme un choix qui se fait. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ces jeunes sont différents ou est-ce que tu veux retourner à ta vie normal. Alors la question se pose pas longtemps, hein. Mais il dit, ouais, je vais voir pourquoi est-ce qu'ils sont différents. Alors il retourne à l'église, il lit la Bible, il prie, il accepte aussi la prière des uns des autres. Et au début, les premières semaines, rien ne semble changer dans sa vie. Mais il y a un jour particulier où le pasteur qui est là et un autre ami prie pour lui. Et pendant qu'ils sont en train de prier, lui, il est là, il sent vraiment qu'il y a un fardeau. On en parlait tout à l'heure du fardeau pesant qui est là sur ses épaules. Il a vraiment cette sensation que sa vie est lourde. Et puis, quand ils sont en train de prier, plus ça avance, plus il y a quelque chose qui se passe vraiment. Il a comme une vision. Et là, il se voit au fond de la mer. Et il se voit au fond de la mer en train de se noyer avec des chaînes qui l'empêchent de bouger. C'est fort quand même, hein, ce qu'il voit. Et là, il se débat, il essaie de s'en sortir, mais il n'y a rien qui se passe. Et puis, il entend les prières qui sont en train d'être faites pour lui. Et il sent que les chaînes, petit à petit, alors que les prières continuent, elles sont en train de craquer. Et à un moment donné, parce que les prières continuent jusqu'à la victoire, les chaînes sont brisées. Et là, à ce moment-là, alors qu'il est libre, qu'il sort de cette mer, il voit comme le Seigneur Jésus qui lui apparaît et qui lui pose cette question. Mathias, il s'appelle Mathias ce jeune homme, veux-tu me suivre? Veux-tu continuer le chemin avec moi? Et il est touché parce que c'est pas le Seigneur qui lui dit, maintenant tu dois me suivre. Mais il y a toujours cette invitation. Dieu ne nous force jamais, mais il sait que là c'est le bon chemin. Alors il dit, oui Seigneur, j'en peux plus de ma vie passée, donne-moi une vie nouvelle. Et alors qu'il fait cette prière, eh ben il y a quelque chose qui se passe. Le fardeau, il s'est ôté de ses épaules. Et ce jeune homme, il commence à avoir une paix, il commence à avoir une joie. Et il commence à ne plus se souvenir de tout ce qui lui est arrivé, mais à avoir les yeux qui brillent par rapport à l'avenir parce qu'il a trouvé son sauveur. Voilà ce qui arrive quand on connaît un temps de moquerie, mais qu'on choisit de chercher en Dieu la solution à tout cela. Ça vaut la peine de se tourner vers le Seigneur. La moquerie, ça peut être un fardeau sur nos épaules. Mais Jésus, il libère de tous les fardeaux. À la croix, il a pris tous les fardeaux pour que nous puissions, nous, être pardonnés, libérés, délivrés de tout cela. Alors nous sommes invités à tenir bon face au mépris et à la moquerie. Et un autre type d'adversité que nous voyons, c'est là aussi la menace et la peur. Une des armes les favorites du diable, c'est la peur. Vous avez déjà remarqué ça ? Avoir peur de quelque chose, peur de ce qu'on connaît pas, peur de l'avenir, peur du présent, peur de pas guérir des choses du passé, peur de ceci, peur de cela. On pourrait donner aussi toutes sortes de termes plus nuancés comme les inquiétudes, mais ça va des inquiétudes jusqu'à la terreur, jusqu'à les angoisses. Je parle à des gens qui ont connu de telles choses, on est d'accord. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des moments de frayeur, mais... Ça vient pas de Dieu. Attention, il faut pas se tromper. Il y a la crainte de Dieu, ça c'est bon. Le respect de Dieu. Mais il y a aussi la crainte de toutes les choses difficiles. Et je connais des personnes qui s'enferment des fois dans des raisonnements tellement ils sont pas vrais en fait. Ils s'imaginent des situations, si ceci arrive, si cela arrive, et alors ils pensent que peut-être ils ont telle ou telle maladie ou que le corps va mal réagir suite à... Enfin, ils se font leur film et ils restent prisonniers de cette façon de penser. Et le résultat, quand on est maintenu dans la peur, c'est que on n'est pas dans la paix. C'est aussi simple que ça. Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait, et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. Vous avez remarqué? Ils se sont tous ligués pour venir attaquer Jérusalem. Et qu'est-ce qui s'est passé quand dans la ville, depuis la muraille, ils étaient bien placés en plus pour le voir, ils voyaient qu'une armée commençait à entourer. En plus, les personnes dont il est question, c'était ceux qui venaient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Non, ça veut dire qu'ils étaient entourés d'ennemis. Ils avaient quand même des raisons d'avoir peur. Vous pensez pas? La peur était normale. Mais c'est un moyen que l'ennemi il emploie pour nous paralyser. Vous savez, comme les serpents là qui, c'est le serpent à sonnette, je sais plus quel serpent qui par le regard ou par le bruit qu'il fait, il paralyse de peur la proie pour pouvoir l'attaquer. Le cobra. Vous voyez cette image? Si le diable est appelé le serpent, c'est pas pour rien. Hein, parce que la peur, c'est quelque chose qui peut nous paralyser. Demandez à Ève et à Adam dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a voulu arriver le soir pour prendre un temps avec eux, dans sa présence, face à face avec l'homme? Ils se sont cachés. Pourquoi? Et ils ont dit, on a eu peur. Et quand on a peur, on est paralysé et puis on prend des mauvaises décisions. Parce que, est-ce que c'était dangereux d'aller devant Dieu? Ben non. Qui c'est qui pouvait venir résoudre leurs problèmes, le péché qui venait de rentrer dans le monde et tout ça? Le seul qui pouvait les aider, c'était Dieu. Sauf que la peur nous fait croire qu'il faut pas qu'on s'approche de Dieu. Et l'ennemi, il est là, il met la peur dans nos cœurs, des fois, de l'avenir, la peur de comment est-ce que ce monde va évoluer, et la peur de ceci et la peur de cela, qui nous paralyse, alors que Dieu nous invite à avoir cette bonne réaction et à nous laisser guider, à faire la paix avec lui. Et il y a un parallèle, ça serait trop long de le faire ce matin, parce que je vois que l'heure tourne, mais il y a un parallèle qui est merveilleux à faire entre les armes, les stratégies de l'ennemi, et puis les armes de l'armure du chrétien. Je ne le fais pas ce matin, vous réfléchissez à ça. Au moins juste pour celle-là, la peur, elle est bloquée quand on a le zèle que donne l'évangile de paix. Dieu oppose à la peur, il oppose sa paix. Vous êtes inquiet de l'avenir? Vous avez des inquiétudes par rapport à votre travail? Vous trouvez pas de travail? Par rapport à, vous savez pas avec qui vous allez vous marier? Vous savez pas comment, quelle maison choisir, etc. Il y a toutes sortes de choses, de situations qui peuvent nous effrayer. Il y en a, non? Ou il y en a que, c'est que pour moi. Bon, pourquoi pas, mais bon. Moi, je sais où trouver la solution. C'est dans la paix du Seigneur. Quand on est en paix avec Dieu, alors tout est résolu. Et regardez comment est-ce que Néhémie réagit. Quand ils entendent toutes ces moqueries, quand ils entendent tout cela, la première chose qu'ils font, au verset 9, « Nous priâmes notre Dieu ». Quand ils voient les ennemis qui entourent la ville de Jérusalem, de tous les côtés, « Nous priâmes notre Dieu ». Néhémie, c'est pas juste quelqu'un qui aimait jeûner et prier tout seul dans son coin, mais quand il est face à des circonstances difficiles, il se lève encore une fois et il prie. C'est un homme de prière. Et là encore, il fait confiance au Seigneur. Mais il ne reste pas dans l'aspect mystique de la prière où il fait que ça. Il s'enferme pas dans une caverne pour prier. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde pour le jour et pour la nuit. Il est pratique aussi. Et c'est important d'être autant les mains vers le ciel que les pieds sur la terre. Des fois, il y a des gens, ils sont la tête dans les nuages. Mais c'est pas bon. Il faut toujours rester. On est pas du monde, mais on est toujours dans le monde. Et on doit être prêt, on doit veiller, on doit avancer. Et cet homme, il commence à expliquer ce qui se passe. Comment est-ce que nous pouvons tenir bon face à l'ennemi? Mais c'est justement en mettant en place là où on est faible, en mettant en place un moyen pour que ça soit solidifié. Et il y avait cette trompette qui était prête à sonner pour que là où l'ennemi voulait attaquer, eh bien, le peuple tout entier puisse se réunir pour pouvoir venir contrecarrer les plans d'ennemis. Et combien c'est bon quand on s'unit, quand il y en a un qui souffre, mais que toute l'église s'unit ensemble pour prier pour la personne. Laissez-moi vous dire que l'ennemi, il ne va même pas oser attaquer. C'est ce qui s'est passé pour eux. Ils avaient prévu d'attaquer, ils se sont dit, on a une grande armée, on va leur mettre leur compte. Et puis, comme ils ont su que les autres en face étaient prêts à les recevoir, ils n'ont même pas attaqué. Leurs projets ont été anéantis. Et c'est bon de réagir de cette manière. Il y a quelque chose aussi qui est là, qui nous permet de vivre cette réalité de l'unité, c'est quand on travaille devant notre porte, devant notre maison. Vous vous souvenez, là, qui travaillaient la muraille en face de leur porte. Et il faut aller plus loin que la famille, bien sûr, c'est ce que j'ai insisté la semaine dernière, notre famille, c'est important, il faut travailler pour notre famille. Mais je voudrais prendre cette pensée par rapport à la ville dans laquelle nous sommes, parce qu'on n'est pas tous de la même ville. On peut dire qu'on est une église départementale presque. Parce qu'on, plein de personnes qui viennent de toutes sortes d'endroits, et le Seigneur nous invite à être de ceux qui bâtissent le royaume de Dieu, là où il nous a placés, à Castelsarrasin, à Moissac, à Valence d'Agen, à Beaumont-de-Lomagne, enfin partout, là où le Seigneur nous a placés, à Lozère, et tous ces endroits-là, la Ville-Dieu, Mozac, etc. Je peux vous dire qu'à force de faire la route, je connais beaucoup de villages. Il y en a encore que je suis pas allé. Mais je me dis, Seigneur, tu as permis qu'il y ait des hommes et des femmes dans tous ces endroits-là. Et combien ça permet que ton royaume puisse se répandre. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand on a commencé les réunions de maison, c'est que quand on a commencé à Valence d'Agen, on a prié pour la ville de Valence, puisqu'on y était, et comme on a prié de manière précise pour cette ville, il y a des personnes nouvelles qui sont venues de Valence d'Agen. Quand on a fait pareil à la ville Dieu du Temple, c'est ce qui s'est passé aussi. Et je trouve ça merveilleux, parce que quand on prend le temps de prier de manière précise pour un endroit, le Seigneur, il bénit cet endroit. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vais continuer de le faire. Quand je passe dans des villages et que je vois des gens, des fois, qui ont l'air tristes, je prie, je dis, Seigneur, permets qu'il y ait un de tes enfants qui viennent dans ce secteur du département et qui puisse être un flambeau dans le monde, comme on a chanté tout à l'heure. Être de ceux qui rendent ce bon témoignage. Alors, on veut pas forcer les gens à suivre une religion, ça nous intéresse pas du tout. On veut que les gens puissent connaître, entendre parler de l'amour de Dieu et puissent saisir pour leur propre vie la grâce de Dieu, parce que c'est ça le plus important. Et connaître la paix de Dieu. Il y a un ennemi qui se plaît à nous terrifier, à nous intimider. Mais nous, on veut se lever et on veut le confronter en disant « Non, tu n'auras pas l'avantage sur nous, parce que nous, on marche avec notre Seigneur. » On va fermer les yeux. Mais la question qui se pose, c'est que comment est-ce que nous réagissons par rapport aux attaques de l'adversaire? Est-ce que nous sommes même conscients qu'il y a un ennemi qui veut nous détruire? Vous savez, si tout va bien dans votre vie, mais si vous n'avez pas pris position pour Dieu, mais que tout va bien, laissez-moi vous dire qu'il faut que vous soyez vigilants, parce qu'il y en a un qui attend le bon moment pour frapper, le moment où on est le moins conscient. Et même quand on connaît le Seigneur nous appelle à être vigilants, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront dans la fin des temps. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux prendre l'exemple, le modèle de Néhémie, et tenir bon malgré l'adversité? La semaine prochaine, on verra encore toutes sortes de moyens que le diable emploie pour nous faire peur, pour nous décourager. Le doute, les mensonges, toutes sortes de choses qui sont là pour nous affaiblir. Mais on voit un Néhémie qui tient bon. Et le Seigneur nous invite à être des Néhémies dans notre génération, qui tiennent bon, qui ne se laissent pas avoir par les ruses du diable, mais qui choisissent de revêtir l'armure de Dieu, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, la ceinture de la vérité, le casque du salut, l'épée de l'esprit, la prière, prier en tout temps, avec persévérance. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux te lever? Et oui, dire, Seigneur, je veux prendre l'épée dans une main et l'outil dans l'autre. Je veux être prêt pour me défendre face à l'ennemi, mais je veux aussi servir, travailler, avoir ce zèle pour glorifier le nom de mon Seigneur. Éternel mon Dieu, je te bénis pour ta parole, je te bénis pour la richesse de ta parole. Merci pour ce temps que nous pouvons passer devant toi. Merci parce que Seigneur, si nous pouvons être victorieux, ce n'est pas en regardant à nos forces. Oui Seigneur, si l'ennemi est capable de souligner notre impuissance, il a quelque part raison de le faire parce que nous sommes faibles, nous sommes petits, nous sommes insignifiants. Mais nous avons un grand Dieu qui a dit que ta grâce nous suffisait. Tu as dit que quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Alors nous voulons serrer ta parole dans notre cœur. Nous voulons saisir ta grâce ce matin encore. Et dire Seigneur que par ta grâce nous sommes forts. Dire que par ta présence dans nos vies, nous sommes victorieux, quelles que soient les difficultés. Et je te demande de visiter ce matin particulièrement celui qui se sent faible, celui qui se sent découragé, ceux qui sont passés peut-être par la moquerie, par le mépris dans le travail à cause de leur foi. Que Seigneur tu puisses mettre cette assurance dans le cœur qu'ils sont dans ta volonté et que tu es avec eux et que tu leur fais du bien Seigneur. Merci pour ton action puissante dans ces instants et dans tous les jours de nos vies quand nous prenons position pour toi Seigneur. Je te bénis et je te loue. Amen.